Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Il m'a dit, maman, un quart d'heure. Moi, j'ai attendu. Je n'ai pas fermé les portes. J'attendais mon fils. Vers 23h, j'ai dit, tiens, Stéphane n'est pas rentré. Il m'a dit, maman, un quart d'heure, une demi-heure. Et j'attends toujours mon fils.
Bonjour, Stéphane Dietrich avait 24 ans quand on l'a découvert mort, poignardé près de Belfort, une nuit de l'été 1994. C'était un jeune homme tranquille qui poursuivait des études économiques et se préparait à une carrière financière. Un meurtre commis avec acharnement tout aussi brutal qu'incompréhensible. L'enquête va se retrouver en panne d'indices et de témoignages et la justice va refermer le dossier. La famille de Stéphane ne va jamais accepter ce silence. Elle va inlassablement continuer à demander la vérité. Une longue marche de patience, de ténacité, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, un personnage surgisse dans le décor. Il était l'un des meilleurs amis de la victime et cette amitié aurait fini par tourner à l'obsession, à la préparation d'un crime et au passage à l'acte. Quel est le scénario qu'ont fini par découvrir les enquêteurs et quel secret fatal aurait partagé l'assassin et sa victime ?
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort longtemps inexpliquée de Stéphane Dietrich. À l'été 1994, le jeune homme est retrouvé poignardé dans un coin isolé près de Belfort. La victime a été sans doute attirée dans un piège. Mardi 5 juillet 1994, à 7h40, un correspondant anonyme contacte le commissariat de Belfort pour signaler la présence d'un corps au Bois Joli, à Essert, une commune toute proche. Le malheureux serait mort poignardé. Les policiers sont aussitôt sur place. L'individu gît sur le côté, en partie dévêtu, habillé d'une chemisette tachée de sang. Il a toujours ses chaussettes et ses chaussures, un short propre, exempt de taches, et juste à côté. Il n'y a pas beaucoup de sang sur les lieux, un endroit caché dans les broussailles, jonché de détritus et qui pourrait être un lieu de rendez-vous. Le légiste indique que la mort est survenue entre 8 et 24 heures avant la découverte. L'homme présente 11 plaies, la lame d'une quinzaine de centimètres s'est enfoncée parfois profondément, sectionnant l'aorte, pénétrant le poumon gauche et l'intestin. Le jeune homme, non identifié, ne s'est pas défendu. Peut-être se sentait-il en confiance ou a-t-il été surpris. Le médecin ne relève aucune trace de viol ou de relation sexuelle. En milieu de matinée, Roland Dietrich et Christophe Blin débarquent au commissariat. L'habitante de Belfort vient signaler la disparition de son fils, Stéphane, 24 ans, étudiant. Il vit chez elle. Il n'a plus donné de nouvelles depuis la veille. Il porte un short rayé gris et noir, une chemise orangée, une gourmette en argent. Stéphane Dietrich est bien le mort découvert aux premières heures de la journée. Christophe Blin, 25 ans, qui accompagne la maman, est aussitôt entendu. Il est là car il est un ami proche de Stéphane. Ils se sont connus au lycée. Il devait partir le jour même en vacances, direction Grenoble, Antibes, puis un séjour à Paris. Tout était prêt. La veille, il est passé à 22h chez les Dietrich pour discuter avec Stéphane. Il l'a accompagné en voiture jusqu'à un distributeur bancaire. Stéphane lui a ensuite demandé de le laisser à la fête foraine. Il m'a dit qu'il avait un truc à faire. Je lui ai proposé de l'attendre, mais il m'a répondu qu'il se débrouillerait pour rentrer chez lui. Je l'ai laissé, dit Christophe Blin. Il dit avoir passé la nuit chez sa petite amie Carole. Il précise que Stéphane avait oublié sa carte bancaire dans sa Renault 5. Il l'a remise ce matin à Roland Dietrich. La maman ne comprend pas ce que son fils est allé faire à cette fête foraine. Pourquoi est-il sorti simplement vêtu d'un short, d'une chemisette? Pourquoi encore? Il n'a même pas emporté ses clés. Roland Dietrich raconte qu'en partant, son fils lui a dit qu'il en avait pour 15 ou 30 minutes. Quand ce matin, elle a appelé Christophe Blin pour lui dire que Stéphane n'était pas rentré de la nuit, celui-ci lui a répondu « Mais vous me faites peur, Madame Dietrich. » Jeudi 7 juillet, Christophe Blin, dernière personne à avoir vu vivant Stéphane Dietrich, est interrogé. Il raconte son amitié avec la victime, évoque au passage de possibles penchants homosexuels de son ami, mais précise qu'il n'y a jamais eu de geste équivoque entre eux. Les policiers vérifient la piste de la fête foraine où peut traîner parfois une faune peu fréquentable, mais ils en reviennent toujours à Christophe Blin. Ils soupçonnent une relation cachée entre les deux hommes. Une dispute aurait-elle éclaté? Sur des écoutes, Carole, la petite amie de Christophe Blin, raconte que ce dernier a perdu 12 kilos dans les 15 jours qui ont suivi le drame. À propos de la police, elle dit « Il pense vraiment que c'est lui ». Les enquêteurs s'aperçoivent encore que Christophe Blain était titulaire d'un compte bancaire en actions alimenté par l'argent de la victime. 7 septembre, deux mois après le crime, Christophe Blain est en garde à vue. Il dit avoir vendu les actions et compter restituer l'argent à la famille. Il n'a rien fait de mal à son copain de lycée. Libéré après 24 heures de garde à vue, l'enquête ne va plus bouger. 15 octobre 2001, le juge délivre un non-lieu. 12 ans après le non-lieu, le dossier va être rouvert. Lundi 4 février 2013, le procureur de Montbéliard rouvre l'enquête Dietrich. Quelques mois auparavant, la mère et le frère de la victime ont été longuement entendus par les enquêteurs. Ils ont émis des doutes sur le témoignage de Christophe Blain. On ne le suspecte pas d'avoir fait du mal à Stéphane, mais on pense qu'il cache des choses, répètent Roland et Sylvain Dietrich. Des expertises ADN sont lancées sur les scellés du crime. Des prélèvements effectués il y a 20 ans sont analysés. Un ADN masculin inconnu apparaît sur la scène de crime, notamment sur le slip et le bracelet montre de la victime, ADN qui toutefois ne correspond pas au profil génétique de Christophe Blain. Lundi 22 septembre 2014, le dénommé Ahmed R. se présente à la gendarmerie de Belfort. Une série d'émissions télé se sont succédées ces derniers mois, au cours desquelles est parfois apparu le visage flouté du meilleur ami, Christophe Blain. Ahmed R. a alors fait le lien avec une histoire qui remonte à 94, l'année où le crime a eu lieu. Cette année-là, il était élève au collège Vauban. Un surveillant prénommé Christophe lui a proposé un jour 10 000 francs pour tuer un homme. Il avait, semble-t-il, choisi Ahmed car ce dernier mesurait déjà 1,90 m et avait une réputation de caïd. Le témoin dit que sur le moment, il a cru à une plaisanterie. Mais ce Christophe, dont il ignore le nom, a insisté. « Pour tuer cet homme, il m'a promis que je serais payé en deux fois pour ne pas attirer l'attention de la police. Il ne m'a pas dit qui devait être tué, mais il était question d'utiliser un couteau », ajoute le témoin. Le 3 juillet 94, il se souvient exactement de la date, car c'était le dernier jour du festival des Eurockéennes à Belfort. Christophe lui a téléphoné. Il m'a dit de me rendre dans le bois dessert où l'homme allait passer. Ahmed R. n'a pas donné suite. Le lendemain, c'est effectivement à cet endroit que Stéphane Dietrich a trouvé la mort. Christophe Blain était bien surveillant au collège Vauban à l'époque indiquée. Ahmed l'identifie sans hésitation sur les photos présentées par les enquêteurs. Les policiers repartent sur la piste de Christophe Blain, un homme qui a désormais 45 ans et travaille dans le Var comme agent immobilier. Ses anciennes relations décrivent pour certaines un homme jaloux, possessif, agressif, harcelant. Un jeune garçon a déposé plainte contre lui il y a une dizaine d'années pour agression sexuelle, affaire qui s'est terminée par un non-lieu. Les témoins parlent encore d'un individu des plus secrets. À aucun de ses proches, il n'a parlé de Stéphane Dietrich et encore moins du crime de 94. Une seule fois, alors qu'il était ivre, il aurait prononcé ces mots devant un ami. « J'ai fait quelque chose de pas très catholique ». Il avait alors fait allusion à la carte bancaire de Stéphane Dietrich ainsi qu'à un couteau. Une expertise psychocriminologique de la scène de crime est alors demandée par le juge d'instruction. Le rapport indique que les trois plaies au thorax étaient destinées à tuer. Le cœur était visé. La victime a été agressée par surprise et n'a pas pu se défendre. Le rapport précise que l'arme utilisée pour tuer, genre couteau de chasse, signe à elle seule la préméditation. 15 décembre 2015, Christophe Blain est interpellé. Le suspect va passer aux aveux et évoquer une amitié forcée et trahie.
On va passer au crible la vie de Monsieur Blain et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent, jaloux, avec une problématique d'emprise.
Mardi 15 décembre 2015, Christophe Blain, 46 ans, est placé en garde à vue. Il maintient ses déclarations, il est étranger à ce crime, puis il s'enferme dans le silence. On le confronte à Ahmed R., l'ancien collégien qui l'aurait sollicité à l'époque pour poignarder un homme. Blain va alors rapidement passer aux aveux. Selon lui, tout remonte en 1989. Il raconte que Stéphane Dietrich avait des penchants homosexuels et a commencé à être oppressant. Deux ans plus tard, Dietrich lui a confié qu'il était amoureux de lui. Blin indique avoir été sous pression et avoir cédé un temps à ses demandes. Stéphane serait devenu de plus en plus intrusif dans sa vie, allant même jusqu'à le menacer s'il ne cédait pas à ses desiderata. Il n'a plus supporté cette situation et a décidé d'en finir avec cet ami. 2 à 3 semaines avant le crime, il a effectivement sollicité Ahmed R. Sans succès. Le 4 juillet 95, dans l'après-midi, il est donc parti acheter un couteau dans une armurerie de Mulhouse. Le soir, j'ai revu Stéphane. Il était content de partir en vacances. Je l'ai conduit dans le bois, je l'ai déshabillé pour qu'il se laisse aller. Je l'ai poignardé, raconte Blin. Selon lui, Stéphane n'a pas eu de réaction. Il lui aurait seulement murmuré en tombant « Je t'aime » ou « Je t'aimais ». Christophe Blin est mis en examen pour assassinat. Vendredi 8 janvier 2015, Christophe Blin explique au juge d'instruction qu'il a été victime d'un engrenage. S'il avait acheté le couteau, c'était avant tout pour faire peur à Stéphane. Il n'avait pas l'intention de s'en servir. Une dispute anodine à propos de leur départ en vacances aurait déclenché son passage à l'acte. La maman de la victime, Rolande Dietrich, et son frère Sylvain s'insurgent contre cette présentation de Christophe, un garçon qui n'avait rien d'un harceleur. 4 ans plus tard, Christophe Blin va comparaître aux assises. Lundi 14 janvier 2019, Christophe Blin, 49 ans, visage fermé, pull gris et cheveux poivre sel, est devant la cour d'assises de la Haute-Saône et de Belfort à Vesoul. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître le crime. Il raconte qu'il était sous emprise de Stéphane depuis 4 ans. J'étais à sa disposition, son objet sexuel. L'une des avocates de la partie civile, Claire Doublier, s'étonne que Stéphane Dietrich, qui faisait 20 cm de moins que Blin et qui n'avait jamais menacé personne, ait pu imposer sa loi. Réponse : il était brillant, il m'impressionnait. Blin ajoute : je sais que dans l'histoire, la victime, c'est Stéphane. Le capitaine de police Laurent Dumont estime que Christophe Blin n'a pas su dire non à une relation avec une victime qui l'écrasait de sa personnalité. Il a choisi la pire des solutions pour mettre un terme à cette amitié. La mère et le frère de Stéphane Dietrich démentent toute liaison amoureuse entre les deux hommes et toute forme de harcèlement. 18 janvier, les jurés répondent oui à la préméditation. Christophe Blin est condamné à 20 ans de prison. Christophe Blin ne fait pas appel, le dossier se referme. En 1996, 2 ans après la mort violente de son frère Stéphane, Sylvain Dietrich avait créé une association pour aider à la recherche de la vérité, affaire qui n'aura dès lors cessé de mobiliser la famille. Paul Dietrich, le papa, rongé par le drame, est décédé sans avoir connu la vérité. Bien avant d'être rattrapé par la justice, Christophe Blin avait un jour confié au téléphone à une amie qu'il avait des idées noires et ne dormait plus depuis qu'il avait fait quelque chose de grave. Était-il rongé par la culpabilité ?
Je dirais tout simplement, avec ma maman, on a 2 sensations. La première pour ma maman, c'est que de toute façon Stéphane ne reviendra plus et que pour une maman, c'est pas le nombre d'années qui change la donne. Pour moi, j'estime que pour le combat qui a été mené, c'est effectivement une grande avancée pour rendre justice à Stéphane.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.